Bonjour, je suis Roger Malina. Je suis ravi d'être ici avec Bernard Stiegler et Colette Tron, ici à Aix-en-Provence, à la Fondation Vassarelli.
Colette Tron, merci beaucoup, Roger. Merci à vous deux, d'ailleurs. Je dirige une association qui s'appelle Alphabetville, qui, depuis de nombreuses années, essaye de construire une critique des arts et des nouveaux médias, notamment à travers les questions qui traversent les technologies numériques. Et nous invitons Bernard Stiegler à un projet collaboratif entre Alphabetville, l'école d'art et l'IRI, ou Ars Industrialis, sur le thème de l'art de l'hypercontrôle, et je crois qu'on va en parler.
Oui. Bernard ?
Moi-même, donc, je suis philosophe. Je dirige un institut à Paris qui s'appelle l'Institut de Recherche et Innovation, qui est lié au Centre Pompidou. Et j'ai aussi créé une association, Ars Industrialis, qui est une association, disons, d'esprit libre français ou étranger, parce que c'est en fait une association internationale, où nous réfléchissons au nouveau modèle industriel qui est appelé par le développement des technologies numériques.
Okay, alors, donc, on va peut-être parler de ton concept de la société de l'hypercontrôle. Alors, tu as beaucoup écrit sur le sujet, donc j'encourage les auditeurs à les lire. Donc, rapidement, tu nous contextualises cette idée de la société de l'hypercontrôle.
C'est une société qui est basée sur la traçabilité. C'est aussi ce qu'on appelle l'économie des data, qui intensifie... extrémise même, on pourrait dire, une question que Gilles Deleuze avait posée en 1990 à propos de ce qu'il appelait donc les sociétés de contrôle, lorsque, analysant l'évolution de la télévision vers les émissions de plateau, la télé-réalité, etc., il avait, avec Serge Danet et Félix Guattari, montré que la télévision était une technologie qui permettait de contrôler les individus sans coercition, c'est-à-dire uniquement par leur adhésion, finalement, et leur soumission. Par ce qu'il appelle des processus de modulation. Mais c'était les médias de masse. L'hypercontrôle, c'est une technologie alors, qui fonctionne maintenant à l'échelle planétaire, avec une extension beaucoup plus vaste, parce que les technologies de télévision, ça restait national, à cause des problèmes linguistiques, etc. Et aussi des problèmes de géographie et de technologie d'émission de signal télé. Aujourd'hui, avec le web et l'Internet et les technologies numériques, on couvre la planète entière, 2 milliards et quelques d'internautes aujourd'hui qui communiquent en permanence quasiment, qui produisent des traces, délibérément ou inconsciemment, et des technologies qui permettent de tracer les individus un par un, de personnaliser les parcours en produisant ce qu'on appelle des doubles ou des profils, par les technologies du user profiling, et évidemment l'utilisation des big data, du temps réel, pour pouvoir, en exploitant aussi ce qu'on appelle l'effet de réseau, créer des processus de contrôle un par un, mais en faisant de la sommation de comportements qui permet, par exemple, de mettre en place des logiques comme celle de la fameuse longue traîne de Chris Anderson, et donc d'arriver à développer un marketing d'un nouveau genre, un marketing de niche à l'échelle planétaire.
Donc là, en effet, hier soir, à la Cité du Livre, tu as fait, en effet... des remarques qui me semblent importantes sur cet aspect aussi bien de la cybernétique et des big data, et qu'en effet, à cause de la vitesse de calcul, à certains moments, le système peut anticiper et diriger ton action vers certaines directions plutôt que d'autres.
Non seulement à certains moments, mais il est fait pour ça.
Oui.
Il est fait pour ça. Les business models sont tous orientés vers la capacité à attirer les contributeurs qui fournissent des data, finalement, vers des types de comportements qui sont intéressants pour le business model. Alors, l'exemple qui est caractéristique, évidemment, que tout le monde connaît maintenant, c'est celui de Google, puisque finalement, la première grande entreprise de big data, c'est Google, et depuis le début, puisque Google s'est développé par ses technologies probabilitaires qui utilisent des chaînes de Markov sur les technologies du langage. C'est ce que un chercheur français qui s'appelle Frédéric Kaplan a appelé le capitalisme linguistique de Google. Et là, il y a un débat très intéressant entre ce que dit Chris Anderson et ce que dit Frédéric Kaplan. Chris Anderson dit, avec les modèles de Markov, par exemple les chaînes de Markov de Google, on peut très bien traduire par exemple le chinois en anglais sans parler chinois. Il cite le directeur de la recherche de Google qui dit, il n'y a aucun, personne ne parle chinois chez Google, et néanmoins nous traduisons du chinois. Donc on n'a plus besoin de linguistes, dit Chris Anderson. Oui. Il dit on n'a pas besoin non plus de biologistes pour la santé, etc.
Donc en effet, dans cette période, Chris Anderson, il y avait toute cette discussion sur le end of theory, donc qu'il suffisait de faire du reconnaissance, pattern recognition, comme on dit.
Analyse de structure.
Et avec pattern recognition, ça permet en effet de faire des extrapolations et de la rétrodiction plutôt que de la prédiction. et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans le paysage. Et je crois que tu as raison de souligner que le cinéma, c'était dans une autre époque où en effet, on n'est pas dans ces milieux de masse informatiques où les données sont récoltées sur les utilisateurs. Alors, en même temps, et c'est là que je vais peut-être rebondir sur ta discussion hier soir sur l'Anthropocène, en même temps, ce même système, et tu as insisté, devrait permettre aussi d'être rétroactif sur le système et peut-être d'encourager des mouvements populaires pour corriger nos actions dans le contexte de l'Anthropocène.
Oui, tout à fait. Alors, avant d'introduire cette question-là, je voudrais dire un mot sur ce que dit Kaplan.
Oui.
Parce que ce que montre Frédéric Kaplan, c'est que le business model de Google est extrêmement efficace sur les besoins utilitaires avec le langage, il n'y a aucun doute. Moi, ça m'arrive de traduire du chinois en français grâce à Google. Je ne parle pas un mot de chinois, mais j'interagis avec des Chinois. Mais ce que montre Kaplan, c'est que ça produit des phénomènes anthropiques sur le langage, parce que d'abord, ça engendre des phénomènes de dysorthographie. Les locuteurs savent de moins en moins orthographier correctement, donc il y a une perte de compétences et de savoir chez les locuteurs. Et puis, il y a des phénomènes statistiques de privilèges, par exemple, des champs sémantiques qui sont intéressants pour Google, bien évidemment.
Oui.
Et donc, à terme, ça produit une perte de diversité sémantique, une perte d'orthographie, de compétences orthographiques. Et par ailleurs, cela repose sur l'anticipation automatique du comportement de l'individu, parce que la machine fonctionne 4 millions de fois plus vite que l'individu. Si on prend des chiffres absolus, c'est-à-dire si on prend les performances, la circulation d'informations sur les nerfs d'un corps humain, entre le cerveau et la main, par exemple, ça, une information met un 1/50 de seconde pour faire un mètre, donc pour atteindre le clavier entre le cerveau et la main. Tandis que sur un réseau optique, par exemple, l'information circule à 200 millions de mètres par seconde. Donc elle va 4 millions de fois plus vite que moi. Et c'est pour ça que Google est capable de me téléguider.
Ouais, ouais.
Et de produire ce que j'appelle moi des protensions automatiques. Voilà, de générer automatiquement des protensions, des volontés qui sont artificielles en réalité, qui sont produites par le business model, mais qui se substituent à ma propre volonté. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que ça produit un processus anthropique. Alors, dans l'Anthropocène, maintenant, où il y a un accord, maintenant, je crois, à peu près général des scientifiques de la géologie, de l'anthropologie, sur le fait qu'en effet, depuis 250 ans à peu près, l'homme est devenu une puissance tellurique.
Qui est compétitive avec les forces naturelles.
Voilà, qui est devenu un agent géologique aussi important que la dynamique des plaques, etc., etc. La force des océans, tout cela. Dans un contexte comme celui-là, ce que nous découvrons de plus en plus clairement, c'est que l'homme est devenu une force anthropique, c'est-à-dire destructrice du vivant.
Oui, oui, oui.
De toutes les formes de vie, les insectes, les bactéries, les plantes, etc. Et de lui-même en tant que forme de vie. Et nous savons maintenant que, grosso modo, l'humanité a moins de 50 ans pour corriger cette trajectoire. Là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on met cette technologie extraordinaire des big data au service de la négentropie et non pas de l'entropie.
Et corriger les comportements de nos sociétés.
Voilà. Et alors là, la question qui se pose, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment on crée les conditions pour que la diversité idiomatique, politique, symbolique, artistique, scientifique puisse s'emparer de ces technologies. Je travaille moi là-dessus, et c'est un petit peu aussi dans ce contexte-là que nous avons un partenariat avec Alphabetville et l'école d'art d'Aix-en-Provence, qui est en train de se construire, pour essayer de mettre en place ce que j'appelais hier un art de l'hypercontrôle, c'est-à-dire la capacité à faire travailler ensemble des ingénieurs, des scientifiques, des artistes, des citoyens, des acteurs économiques, pour inventer une économie de la négentropie, c'est-à-dire la production de diversité, et non pas de la destruction de la diversité par les big data.
Colette, tu veux un peu réagir à la discussion?
Juste, je voudrais juste redonner un repère. Évidemment, cette notion d'art de l'hypercontrôle, elle vient de chez Deleuze, qui parlait d'un art du contrôle, donc d'un renversement du contrôle. Et on reprend cette idée de renversement, même de révolution, qu'on trouve aussi chez Burroughs. À travers l'art de l'hypercontrôle, ce renversement, il passe par la question du pharmacon chez Bernard Stiegler. C'est aussi pour ça qu'on fait appel à lui, et de trouver les dispositifs ou les appareillages de cette ouverture. Et d'expérimenter ça ensemble, c'est un peu le projet de cette recherche que, enfin, c'est moi qui ai un petit peu appelé ça vers un art de l'hypercontrôle. Et là, il va falloir effectivement travailler tous ensemble.
Et c'est pour ça que nous avons développé au sein de Ars Industrialis et de l'IRI, et aussi de l'école pharmacon.fr, une démarche qui consiste à mettre en œuvre ce que nous appelons les concepts de l'organologie générale. C'est-à-dire, l'organologie générale, c'est une démarche qui pose qu'un fait humain est toujours un fait organologique, et non pas seulement organique. C'est-à-dire, pas seulement biologique, c'est de la biologie articulée avec de la technologie. Et en fait, le premier penseur de ces questions, c'est Georges Canguilhem, qui d'ailleurs emploie le mot organologie générale.
Alors pour moi, je trouve intéressant que tu prends cette attitude plutôt optimiste, hein, qu'en effet on détourne le problème pour trouver la solution. Et là, en effet, hier soir, tu as beaucoup parlé du besoin d'inventer, hein, et pas de résister. On résiste aussi, mais que vraiment le besoin de fond, c'est d'inventer. Donc, écoute, je vais te remercier là, Colette, et vous remercier, et Bernard. On va continuer la discussion dans le prochain podcast. Merci.